Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire de Radio Syllable. Je suis Cesse et je suis en compagnie de Clara. Salut Clara.
Salut Cesse.
Alors, il y a d'autres personnes que nous dans le studio pour aujourd'hui, mais pour l'instant, suspense et mystère. On va plutôt vous parler un petit peu de l'agenda culturel, ce qui se passe à Rennes. Et première actualité, qu'est-ce qui se passe pour les éditions Fier, Clara ?
Elles ont réussi à avoir leur cagnotte qui a été remplie à 100% par rapport aux objectifs qu'on vous a annoncés à la dernière émission.
On a hâte de découvrir leur prochaine publication et de vous les chroniquer dans cette émission. Et il y a également de quoi écrire, de quoi pratiquer. Je crois que tu avais repéré quelque chose d'intéressant, Clara, vers fin novembre.
C'est ça, le 24 novembre, dans les locaux d'ESS Cargo, une association qui est située au rez-de-chaussée du bâtiment EREV, vous avez l'association Vacarme Rennes qui vous propose un atelier d'écriture intitulé « Femmes » avec un S entre parenthèses. C'est un atelier d'écriture de 9h à midi qui est en mixité choisie sans hommes cisgenres. Et le but, donc, c'est de parler de ce qu'ils appellent le cri des hyènes, en précisant « ils et elles ne profiteront plus de notre silence ». Et pour participer, il suffit de s'inscrire sur leur mail vacarme.communication@proton.me. Toutes les informations sont dans la description de notre podcast.
Et si vous avez plutôt le goût de participer à des échanges ou assister à des rencontres, vous pouvez aller à l'événement « Derrière le grillage, un étrange émerveillement », une rencontre organisée par la librairie de l'Astrolabe le samedi 22 novembre. Ça sera à partir de 15h30 jusqu'à 17h30. Il y a une belle programmation, ça parlera du coup de la notion d'émerveillement en lien avec les genres du fantastique, de la science-fiction, et je dis sûrement des choses un petit peu imprécises, mais c'est pour ça qu'il faut aller voir les gens qui savent ce dont ils parlent. Et elles parlent. Voilà pour les actualités. Un truc qui va venir à peu près dans les mêmes jours que ce qu'on vient d'annoncer, il y a bien entendu le Festival des Transversales. Cette édition, la 15e déjà, portera sur le thème des forêts. Et pour en parler avec nous, nous en recevons les deux artistes associés. Bonsoir Elsa Amsalem.
Bonsoir.
Bonsoir Juliette Thomas.
Bonsoir.
Donc on vous propose déjà un temps d'entretien pour parler un petit peu de vos profils à toutes les deux, chacune séparément avec un temps de parole dédié. Et puis on se retrouvera en deuxième partie d'émission pour avoir une discussion vraiment commune avec toutes vos voix pour discuter un petit peu de la forêt, de littérature et des pratiques que ça génère tout ça. Ça vous va comme programme ?
Parfait.
Et ben on commence avec toi Juliette, puisqu'on s'est accordé sur le fait de se tutoyer en amont. Donc pour commencer, je voulais partir un peu de la programmation du Festival des Transversales qui te présente comme une personne qui est autrice et qui fait des ateliers. Je trouvais ça marrant de distinguer ce qui est du rapport de ton identité et ce qui est de l'ordre des actions. Donc peut-être tu pourras nous parler un peu de comment ça s'articule. Et je cite... Tes textes sont traversés par le lien au vivant et les métamorphoses possibles des corps. Elle nourrit son écriture d'imaginaire organique et fluide et explore la performativité d'une poésie en prise avec le monde. Quel parcours on a pour arriver à avoir développé ça aujourd'hui ?
C'est un parcours pas semé d'embûches, mais avec beaucoup de bifurcations, même s'il y a une ligne, un fil rouge bien clair. Moi, j'ai commencé ici à Rennes 2 avec un master de recherche en littérature. Et suite à ça, j'ai été un peu vers la médiation culturelle. J'ai refait un master de médiation du spectacle vivant. J'ai travaillé dans un théâtre. Après, je suis devenue prof de français. Et puis, pendant toutes ces expériences-là, après mon master, j'avais commencé à animer des ateliers d'écriture. Et puis, ça avait pris un peu plus de place, et puis un peu plus de place, jusqu'au moment où c'était un peu beaucoup de... préparer les ateliers avant d'aller en cours le matin, d'aller faire les cours et d'aller animer le soir. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être c'est aussi le moment de voir aussi ce que devient ton écriture si elle a du temps pour s'épanouir, parce que ce qui passait un peu à côté, c'était même mon propre travail artistique. Et donc, bah, ça fait 3 ans que maintenant j'écris et que je fais des ateliers d'écriture et que c'est ça à quoi je dédie mon temps. Et c'est drôlement chouette.
Et ce que j'entends dans ton parcours, c'est qu'il y a beaucoup de place pour le lien aux autres dans ta pratique de l'écriture, que ce soit en transmettant dans un espace d'éducation formelle, des choses plus libres comme l'atelier d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Puisque justement, c'est une des choses qui est mise en avant dans cette présentation, le lien au monde et au vivant.
Ben, je crois que Au début, ça a commencé pour moi d'une manière assez intime, l'écriture. C'était quelque chose que je faisais chez moi, un peu secrètement. Bon, mes amis, ma famille le savaient, mais c'était pas un truc que je criais sur tous les toits. J'ai continué à pas le crier sur tous les toits quand j'ai commencé à animer des ateliers d'écriture, mais là, j'ai commencé à dire aux gens, mais en fait, il faut le dire, et le fait de le faire ensemble, ça le fait exister, et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on puisse partager ce geste-là, c'est pratique. Et je me suis dit, bah, c'est rigolo quand même de donner des conseils aux gens alors que tu ne suis pas tes propres conseils. Et puis, je crois que de faire ce geste-là dans des groupes, de cultiver le collectif, ça m'a aussi donné de la force à moi pour mon travail personnel. Et puis ça s'est nourri. Et en fait, à un moment donné, il n'était plus trop dissociable ce qui était de l'ordre de ma pratique et ce qui était de l'ordre d'une pratique qui serait... du collectif, du lien à l'autre, du soin aussi, et de prêter vraiment attention au groupe. C'est-à-dire, dans un atelier d'écriture, on va faire écrire les gens, mais il y a aussi tout un aspect qui est pour moi essentiel, qui est de faire groupe, quoi, de réussir à voir, se jouir de cette force collective qui est à l'œuvre. Et donc, ouais, vraiment, le fait d'être ensemble, d'être à plusieurs, c'est quelque chose qui est très important dans ma pratique et qui la nourrit... C'est un échange sans cesse entre la transmission, la médiation et le geste artistique.
Et donc tu nous disais, ça fait déjà 3 ans que tu animes des ateliers d'écriture. Tu as déjà participé au Festival des Transversales dans ce cadre et en performant également. Aux Parleuses aussi, l'édition précédente et celle de cette année également. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui nous attend, ce qui va attendre le public qui viendra? Du coup, 2 interventions que tu feras de façon individuelle. Donc je parle de l'atelier d'écriture d'une part et de la performance de l'autre.
Eh bien, ça fait même plus longtemps que je fais des ateliers d'écriture. Ça fait 6 ans, puisque j'ai commencé en même temps que je faisais toutes mes autres activités. Et le Festival Transversal, c'est l'un des premiers qui m'a fait confiance sur le fait d'animer des ateliers. Et puis en plus, des ateliers qui étaient assez longs. On est très vite arrivé à ce format d'une journée d'atelier. Donc peut-être que je peux commencer par parler de ça. C'est une journée d'écriture avec, souvent c'est des étudiants, mais je crois que c'est ouvert à tout public. Et du coup, l'idée, c'est de voir ensemble, moi, je compose une sorte de fil rouge, de plan pour la journée qui va porter sur le thème du festival. Là, cette année, c'est la forêt. Comme tu le disais tout à l'heure, moi, je travaille beaucoup sur le vivant, sur la manière dont on écrit le vivant pour qu'il le reste, justement, dont on n'en fait pas un objet. Parce que dans la littérature, la nature devient objectivée, alors on peut la posséder, la détruire, on peut en jouir. Enfin, du coup, ça crée vraiment un rapport de hiérarchie. Moi, je m'interroge beaucoup sur comment est-ce qu'on nourrit des imaginaires qui sont beaucoup plus horizontaux, beaucoup plus fourmillants. Et c'est sur ça que va porter l'atelier d'écriture. Qui s'adosse du coup forcément à mes propres recherches aussi, et qui s'adosse à la performance que je vais donner le jeudi soir, qui est le fruit d'un travail de résidence d'écriture que j'ai mené dans la Meuse l'année dernière, dans le cadre de tout un projet qui était soutenu par les ateliers Médicis, qui sont une structure à Clichy-sous-Bois. Et du coup, j'ai beaucoup marché en forêt, j'ai animé des ateliers avec des enfants sur le thème de la forêt et de la métamorphose pendant que moi j'écrivais mon texte. Et la performance, c'est le résultat de ce travail d'écriture et d'une collaboration avec une metteuse en scène qui s'appelle Hortense Bison et qui m'a aidée pour tout ce qui était mise en espace, scénographie, etc. Une fois que j'ai eu terminé le texte et qu'il s'agit de le porter en corps devant des gens, quoi.
Donc pour donner un peu les informations logistiques, après l'orée, ça sera ta performance qui sera visible le jeudi à 18h à l'Hôtel Pasteur. Et l'atelier d'écriture, lui, il aura lieu le samedi 22 novembre. Il y a 10 places, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire au mail festivaltransversal, avec un S à la fin, @gmail.com. Une petite dernière question avant d'écouter de la musique. Cette musique, c'est toi qui l'as choisie, Juliette. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on l'écoute ?
Ouais, c'est la musique d'une personne que j'ai découverte parce qu'il était poète. Il était publié chez 10 pages au carré, qui est une petite maison d'édition qui s'attache justement à faire entendre des voix de poètes et poétesses émergentes. Et en fait, il a commencé à faire de la musique, je crois, il y a longtemps, mais là, en ce moment, c'est tout frais. Il vient de sortir un nouvel album et moi, j'aime bien cette musique. Je la trouve chouette. Voilà, du coup, je trouvais ça sympa d'écouter ça aujourd'hui.
Alors, on découvre ça tout de suite.
Le monde est grand et je sors à peine de mon écran. Devant mon bol de riz, je trouve que le monde est grand. Il suffit d'une mauvaise artère et le monde est refroidi. Il suffit d'un peu d'amour et le monde est reparti. Le monde est grand, ouais, le monde est grand, ça dépend des jours. Parfois allongé sur les draps blancs, les volets fermés, le monde est sourd. Quand mes amis dansent, le monde en vaut la peine. Le monde existe à peine, le monde est beau parce que c'est moi qui le dis. Le monde est grand, le monde est grand et moi j'en veux plus. Le monde est grand, mon appart est petit mais le monde est grand. Le monde est grand, le monde est grand et je suis allé nulle part. Le monde est plus grand depuis que je t'aime, le monde est plus grand. Le monde est grand, le monde est grand et moi j'en veux plus. Le monde est grand, mon appart est petit mais le monde est grand. Le monde est grand, tellement de pays je suis allé nulle part. Le monde est plus grand depuis que je t'aime, le monde est plus grand. Le monde est grand et y'a moins de vivants que de morts. Le monde est fait de plein de choses, mais y'a surtout de l'eau de mer. Le monde n'est pas celui que ta mère t'avait promis. T'as qu'à sortir de ton canapé si tu le trouves trop gris. Le monde est moins grand pour les chômeurs en bas sur le banc. Il est plus adapté pour les oiseaux, pour les rentiers, pour les blancs. Y'a de l'air pour tout le monde, même pour les gens bizarres. Il suffit de leur laisser la place, ils agrandiront le paysage. Le monde est grand, le monde est grand et moi j'en veux plus. Le monde est grand, mon appart est petit mais le monde est grand. Le monde est grand, le monde est grand et je suis allé nulle part. Le monde est plus grand depuis que je t'aime, le monde est plus grand. Le monde est grand, le monde est grand et moi j'en veux plus. Le monde est grand, mon appart est petit mais le monde est grand. Le monde est grand, tellement de pays je suis allé nulle part. Le monde est plus grand depuis que je t'aime, le monde est plus grand. Le monde est grand, le monde est grand et moi j'en veux plus. Le monde est grand, mon appart est petit mais le monde est grand. Le monde est grand, tellement de pays je suis allé nulle part. Le monde est plus grand depuis que je t'aime, le monde est plus grand.
Sur J'irai cracher sur vos ondes sur la radio Syllab. Aujourd'hui, je reçois en interview Elsa Homsalem. Alors, tu te définis comme scénographe, metteur en scène et plasticienne rennaise, mais tu as aussi été comédienne, tu as travaillé sur la machinerie, les décors, les accessoires. Si on doit décrire ton travail, voici les quelques mots qu'on peut lire sur ton site. Je m'appuie sur les lieux, particulièrement l'espace public et objets pour mes créations. Je souhaite les donner à voir autrement, les révéler, voire les transfigurer, c'est-à-dire les revêtir d'un éclat nouveau. En prenant ces éléments issus de la réalité, je cherche à faire glisser le spectateur vers un ailleurs, à le porter dans un imaginaire. Pour commencer, ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours artistique qui est quand même assez fourni, assez large et où tu touches un petit peu à tout finalement ?
Oui, c'est assez marrant pour moi d'entendre ce que tu viens de dire parce que c'est
un blog que j'utilise moins maintenant et donc c'est un peu ancien comme définition. Peut-être que je me définirais un peu différemment aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt metteuse en scène, même autrice et comédienne, et j'ai lâché progressivement la scénographie. Après, il y a quand même une logique dans ce parcours-là, dans le sens où donc, moi, j'ai plutôt un parcours au début art appliqué. Je suis arrivée aux Beaux-Arts de Rennes, j'étais au Conservatoire de théâtre en même temps. J'ai poursuivi aux Arts Déco à Paris en scénographie. Je suis revenue à Rennes et j'étais à la fac en Master 2 études théâtrales où j'ai travaillé un mémoire sur la question de la création in situ et du théâtre, pas que théâtre d'ailleurs, mais de la création en espace public. Et ça, j'ai poursuivi en fait après. On a monté cette compagnie qui s'appelle l'Atelier des Possibles avec une autre amie qui est scénographe. Donc au tout début, il y avait plutôt l'idée que cette compagnie, ça serait autour de la construction, fabrication de décors. Et moi, assez rapidement, finalement, j'ai fait une première création. C'était une commise en scène autour des terrains vagues qui s'appelait Terrains vagues. Et ensuite, il y a eu Carrière dans les anciennes carrières abandonnées. Et puis, Le Jardin dans les jardins la nuit. Et là, un peu plus récemment, Écho du sol dans les cimetières. Et on va dire qu'à chaque fois, ma manière de travailler... Maintenant, je dis que je fais du théâtre paysage, chose que je racontais pas ou définissais pas comme ça avant. Je parlais plutôt de création in situ, ce qui est aussi vrai. Mais là, je me suis dit que ça m'intéressait de m'affilier à cette famille artistique qui est celle du théâtre paysage, et c'est de d'imaginer comment, enfin, à partir d'une typologie de lieu ou de lieu un peu singulier, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce que les lieux nous racontent. Et il y a souvent un rapport aussi à la marche, à la déambulation, à l'exploration, et de laisser la place aussi au lieu lui-même, enfin, dans lequel on est plongé, quoi.
Oui, finalement, le lieu devient presque le personnage de l'œuvre, finalement, dans ce que tu me racontes, j'ai l'impression.
Oui, souvent, là, sur l'écho du sol, c'est encore un peu différent. Et le prochain spectacle qui s'appelle Forêt, pour l'instant, en tout cas, et pour lequel on est en résidence cette semaine à Rennes 2, il y a quelque chose d'un peu autre, mais quand même, en tout cas, c'est sûr que il y a cette idée que le lieu est à la fois le point de départ, la matière. Et oui, des fois, j'ai pu dire ça souvent à des équipes de comédiens, comédiennes, que c'est le personnage principal de la pièce et qu'il faut aussi lui laisser la place, quoi. Et c'est toujours cette question-là de comment est-ce qu'on laisse la place aussi, ou comment on dialogue, comment on s'efface par moment pour donner à voir, à entendre le lieu dans lequel on est, quoi.
Alors, tu l'évoquais juste à l'instant, mais tu fais partie de la compagnie Atelier des Possibles, qui est en résidence à l'Université Rennes 2, donc du 3 au 7 novembre. Comment est-ce que le projet Forêt, justement, dont tu viens de parler, est né? Ce projet pour lequel vous êtes en résidence avec la compagnie cette semaine, comment ça s'articule?
Alors, c'est un spectacle dont j'ai eu l'idée dans la continuité du précédent, qui s'appelle donc Écho du sous-sol et qui joue en cimetière. Parce que pour Écho du sous-sol, je suis partie en enquête dans différents cimetières à la recherche de mes morts, parce qu'on m'a posé cette question-là lors d'un atelier au tout début de la création, qui était « Ils sont où tes morts ?» Et je me suis rendu compte que je ne savais pas répondre à cette question. Et je me suis mise à aller dans différents cimetières avec un micro qui était visible, mais ça a produit des rencontres. Et je n'avais pas imaginé ça, mais finalement, c'est devenu la base d'écriture du spectacle. Et en fait, en allant voir la tombe d'un grand-père que je n'ai pas connu, qui est enterré dans les Côtes d'Armor à Pomerite-le-Vicomte, vers Guingamp, je suis tombée par hasard sur un if qui se trouve avoir, on pense, 1800 ans, qui a un tronc qui est extrêmement large et qui est troué en son milieu, à l'intérieur duquel il y a comme d'autres troncs qui ont repris racine et on peut même rentrer dedans et être debout dedans. Et ça a été pour moi une rencontre très belle et assez forte dans cette recherche sur les traces des ancêtres et d'un récit troué, justement, de tomber sur cet arbre à trous et qui était aussi un endroit d'accueil, en tout cas. Et c'est un peu lui qui m'a mis sur le chemin de la forêt avec cette idée. On emploie souvent l'arbre généalogique comme image quand on s'intéresse à la généalogie, aux ancêtres. Et moi, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, si je poursuis cette enquête sur la trace de mes ancêtres et des histoires familiales, c'est comment est-ce que chaque histoire de ces individus, elle se relie à une histoire ou à des histoires beaucoup plus vastes et des devenirs beaucoup plus collectifs. Et où ça serait plutôt peut-être une généalogie sylvestre, dans le sens où on se rapporterait plutôt au sol et au système racinaire, et on sait, voilà, comment les arbres, ils sont reliés les uns aux autres, et comment par en dessous, toute la part invisible, on va dire, des forêts, et avec ce parallèle avec nos parts invisibles aussi à nous, et comment nous-mêmes, on est tous et toutes reliés à des fils qui nous échappent et qui remontent loin, à la fois dans le temps et dans les géographies, quoi. Et donc c'est un peu ça qui m'a amenée vers la forêt.
Et alors, justement, sur ce projet, t'es pas seule à travailler dessus. Je pense notamment à Martin Mongin, qui travaille aussi sur le projet. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'équipe avec laquelle tu travailles sur ce projet ?
Donc oui, là, cette semaine, on est en résidence avec Martin Mongin, qui est lui auteur, dramaturge, il est aussi romancier. Et là, ça va être une coécriture, comme ça l'a été pour Écho du sous-sol. Et autrement, je travaille aussi avec Guillaume Tamon, qui est créateur sonore, parce que la dimension sonore sera assez importante, avec à la fois l'idée qu'il puisse avoir les sons de la forêt, avec une amplification potentielle de ces sons, aussi d'imaginer c'est quoi les sons du dessous, et aussi, parce que c'est un des enjeux qui m'intéresse dans cette création, c'est le rapport aux langues, et quelles langues n'ont pas été transmises, quelles étaient ces langues parlées par mes ancêtres, ou un peu c'est le français qui a comme mangé toutes ces langues, et de donner à réentendre par le... le son, ces différentes langues. Il y a aussi Sophie Ouarou qui est costumière et Elsa Van Zande qui sera un regard extérieur à la mise en scène.
Donc aujourd'hui, entre soi, dans J'irai cracher sur vos ondes, dans le cadre du festival Transversal qui va se tenir à Rennes du 18 au 29 novembre, donc un peu plus tard que cette résidence. Et dans le cadre de ce festival, la compagnie Atelier des Possibles avec laquelle tu travailles proposera un atelier d'écriture. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cet atelier? Quels sont ses objectifs? Comment est-ce qu'on y participe?
Donc c'est aussi un atelier d'une journée, où il y a ce temps-là aussi un peu long. Et il sera question du rapport aussi à la forêt et peut-être d'aller chercher la forêt. Parce que donc il va se passer plutôt sur le campus de Rennes 2 et c'est à la fois sur nos forêts rêvées, mais aussi peut-être les forêts de l'enfance. Et après, parce que je fais partie aussi avec Martin Mongin, on a fondé l'Institut de Géographie Imaginaire, où il y a toute cette question des enquêtes et dans le rapport au lieu et de comment on peut mettre en récit des recherches ou des enquêtes. Et il y aura en deuxième partie, l'après-midi, plutôt sans doute l'idée d'aller chercher la forêt. Et qui est un exercice que moi j'ai pu faire sans l'avoir au début imaginé justement en lien avec ce spectacle forêt, en cherchant la forêt là où elle était a priori pas. Et où je me suis dit, ah, c'est quand même assez beau d'aller vers les passants, passantes, et dire bonjour, je cherche la forêt, et de voir où j'arrive, quoi. Et donc il y aura cette invitation-là, aller chercher la forêt.
Justement, c'est ce que je voyais dans la description un petit peu de l'atelier, c'est ce que tu disais en début d'entretien, ce côté déambulation pour l'écriture, etc., qui revient dans ton travail, mais qui va être aussi présente dans cet atelier pour les participants, participantes.
Oui, ça sera à la fois peut-être au début d'être dans un peu une bulle et de l'imaginaire et après de. J'aime bien souvent faire ce lien entre fiction et réalité et des fois d'aller chercher la fiction dans le réel et de voir où on arrive et que souvent cette expérience-là elle dépasse toutes les fictions qu'on aurait pu imaginer.
Donc en attendant d'aller chercher la forêt, je vous propose une petite bande sonore pour cette recherche. On écoute tout de suite Aurora et Pomme.
Driving your car with you, sleeping in the seat next to me, like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a love machine, a cinematic dream, so pure. When the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me. To me, to me, to me, to me. Sans bruit, toi et moi, dans la nuit on
roses et les fleurs qu'on accueille pas avant l'aube, quand la lumière va nous voir quelque part dans le monde. Un oiseau s'endort sans bruit, toi et moi, dans la nuit on trouvera quelque part où déposer les fleurs qu'on accueille. Promis, 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 promis.
Vous venez d'entendre un superbe duo de Aurora et Pomme. Vous écoutez J'ai craché sur vos ondes sur Syllab.
Alors du coup, on va vous poser des questions à toutes les deux, Juliette et Elsa, par rapport à ce festival. Donc jeudi, le festival va s'ouvrir sur le premier volet des journées d'études sur le thème forêt et liminalité. On va parler de politique sur la forêt, en littérature, mais aussi à l'écran. Toutes les deux, vous participez à une table ronde qui aura pour objet de discussion forêt, matière à création, point d'interrogation. Aujourd'hui, ici, on ne va pas rejouer cette table ronde, mais est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, débroussailler un peu cet intitulé pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent? Qu'est-ce que cet intitulé veut dire pour vous?
Forêt, matière à création.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, j'imagine, après, ce n'est pas nous qui avons écrit l'intitulé, mais...
mais... Non, c'est vraiment votre lecture à vous qui est intéressante. Mmh.
En tout cas, pour moi, c'est comment est-ce que la forêt est un point de départ, je le disais tout à l'heure, ou moi, en tout cas, à chaque fois, il y a le rapport au lieu et le fait qu'un lieu peut être un point de départ, et donc une forêt est un lieu multiple. Et de comment est-ce que, en partant de là, enfin, qu'est-ce qu'on peut inventer à partir de là, quoi? Qu'est-ce qui. Ah, donc après, bien sûr, il y a tous les imaginaires qui sont liés à la forêt, qui sont à la fois, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est des choses partagées, qui peuvent être d'ailleurs assez contradictoires, mais qui peut être à la fois le lieu où on se perd et le lieu où on cherche son chemin, mais aussi un lieu refuge où on peut se cacher, où on peut peut-être un lieu de résistance. Le lieu aussi de la marginalité, je sais pas, les sorcières, mais après il y a aussi bien sûr le lieu de la forêt comme lieu de conte, de qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui peut surgir, comment on rentre et comment on sort de la forêt, pourquoi on rentre dedans, pourquoi on en sort. Il y a un peu, c'est un grand, j'ai l'impression qu'en fait c'est quand même très vaste et assez chargé finalement, qu'est-ce que c'est une forêt, et après moi c'est comment chacun, chacune on peut fabriquer à partir de ça, et qu'est-ce qu'on raconte dedans, quoi. Mais c'est peut-être d'abord d'écouter la forêt.
Et toi, Juliette, comment est-ce que tu comprends ce thème?
Bah moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Elsa. Peut-être aussi que... Enfin, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit que peut-être ça avait aussi à voir avec le fait qu'on travaille... On a tout à l'heure de travailler in situ ou à partir du lieu forêt en premier lieu, et qu'il y avait aussi cette question-là. Comment est-ce qu'on passe du concret ou du réel éprouvé sensible pour en faire un texte ou un spectacle, une œuvre, quoi. Ce passage-là, qu'est-ce qu'on garde? Puis du coup, forcément, c'est subjectif, on coupe des choses, on recompose, quoi, aussi, a posteriori. Du coup, moi, je me disais qu'il y avait peut-être aussi ça dans cette question-là, mais en fait, c'est vrai que c'est hyper vaste, quoi. Ça peut être pris selon tellement de manières, soit les représentations, la balade en forêt qu'on éprouve. Ouais, on peut partir dans plein de directions.
Vous parlez du coup de cette à quel point la forêt ça peut permettre d'aller dans plein d'endroits différents et de parler de plein de choses différentes et aussi de façons très différentes. Pour préparer cette émission, j'ai fait un petit exercice où j'ai demandé à des gens autour de moi de me dire quelles sont les œuvres où les forêts vous ont marqué. Et donc tu parlais un peu de l'enfance, les contes sont beaucoup revenus. Il y a eu également pas mal de de fantastique et de fantasy, et plutôt avec des récits justement où il y avait la forêt comme espace de résistance ou comme actrice de résistance. Je pense à la forêt des Ents dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi à la forêt dans Nausicaa, qui sont pas mal remontées. Et un autre exemple qui m'a paru assez intéressant à énoncer, vu que tu parlais, Elsa, plutôt en début d'émission, de « il faut laisser la place quand la forêt fait partie de l'œuvre », et ben, on m'a parlé d'un ouvrage qui s'appelle « Utopia » de Camille Boulanger aux éditions Argile, une édition rennaise qu'on salue, où en fait la forêt est l'espace qui a été rendu. On parle de zone rendue. Et donc, il va y avoir des personnages qui vont aller dans cette forêt, et c'est tout un bazar pour aller dans cette forêt sans laisser d'empreinte, parce que justement, tout le but de rendre cette zone, c'était de la rendre vierge à nouveau. Ceci étant dit, vous, quelles sont les forêts imaginaires qui vous ont marqué, qui vous ont nourri?
Forcément, il y en a plein, et puis moi, j'ai l'impression qu'en plus, comme je travaillais sur la forêt, j'ai vu des forêts partout, et du coup, maintenant, il y a des forêts partout. Enfin, c'est quand on choisit un prisme pour travailler, après, il se répand à tous les endroits. mais peut-être de évidemment dans la forêt de Jean Eglund, moi je pense à ce récit là aussi et à ce qu'elle fait de la forêt comme un endroit qui est l'endroit d'après la fin du monde et comme une nécessité de réinventer la manière d'être humain, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire renégocier les limites de notre humanité à l'aune de l'altérité qu'est la forêt, mais qui est peut-être pas l'altérité hostile ou inconnaissable, peut-être qu'on s'imagine avant d'y être et de peut-être la connaître aussi, quoi. Ça, je pense à ce texte-là, mais bon, il y a vraiment 1000 forêts partout. Voilà, je sais pas si...
Si, si, ça répond tout à fait à la question. C'est pas un contrôle, vous inquiétez pas.
Très bien.
Et toi, Elsa, est-ce qu'il y a une forêt imaginaire qui t'est remontée plus vite qu'une autre?
Eh ben, bon, c'est marrant, parce que c'était la même, donc je vais changer de forêt. En fait, j'ai eu deux choses. Bon, il y a effectivement les forêts des contes de l'enfance et la peur de s'y perdre. Et donc, j'ai pensé aussi, moi, aux forêts réelles, enfants, où j'ai pu aller, ou les forêts la nuit. Enfin, comme si, du coup, ça s'intriquait un peu entre les forêts réelles et les forêts contées, imaginées. J'ai eu aussi une image, mais c'est parce que c'est, je pense que c'est parce que il y a eu un agencement un peu étonnant où je suis tombée sur une œuvre qui s'appelle Forêt d'Eva Jospin en allant à Beaubourg, en allant voir une exposition sur l'Algérie et c'était le titre Forêt là où je venais de décider que moi ça serait le titre de mon spectacle. Donc bon, j'ai revu c'est un tableau en trois dimensions en carton. On peut un peu s'enfoncer comme ça dans la forêt. Mais oui, c'est comme si y a un peu cette chose-là où il y a tellement de forêts que c'est pas si facile d'en choisir une, qu'il y a une espèce de multiplicité, quoi, des forêts à la fois littéraires, à la fois de l'enfance, à la fois que c'est pas si simple de choisir la forêt qui ressort de toutes ces forêts.
Oui, puis elle se recourt. Moi, j'ai l'impression aussi, ce que tu disais là, sur les territoires de l'enfance qui sont réels, avec les imaginaires qu'on rajoute dessus au fur et à mesure de ce qu'on voit, de ce qu'on lit. Enfin, tout ça se recouvre. Et à la fin, en fait, des fois même, moi, j'ai l'impression à des moments d'avoir lu des choses sur la forêt. Puis quand j'allais chercher, je me disais, mais je me suis réinventé la forêt après cette lecture et j'en ai fait autre chose. Juste par le passage dans l'imaginaire et puis le temps qui passe, je trouve ça intéressant du coup d'interroger aussi comment elles sont composées de plein de couches de représentations.
D'ailleurs, tu parlais un petit peu de ta référence, comment s'est questionnée l'humanité. Je regardais le programme pendant que vous aviez cet échange et sachez que pour la journée d'études, il y a une rencontre qui va parler de cette histoire d'humanité et de forêt. Il y a Quentin Amalou à 15h15 à l'Hôtel Pasteur le samedi qui parlera de forêt et frontières entre humains et non-humains, perspectives croisées entre anthropologie, littérature et cinéma. Mais vraiment, le programme est très divers et part un peu dans tous les sens parce que, comme on le dit depuis maintenant pas mal de minutes, la forêt permet beaucoup de méandres.
Oui, tout à fait. Alors justement, Juliette, tu avais un exemple un peu plus précis de forêt d'une œuvre en tant que telle. Est-ce que tu peux nous parler, surtout pour les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas forcément cette œuvre, de la symbolique et de la place qu'a la forêt dans cette œuvre ?
Eh bien, c'est le titre déjà, Dans la forêt, donc il y a clairement un enjeu au fait d'y être. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse un résumé de cette œuvre.
Ça peut être intéressant pour permettre de situer un petit peu aussi l'heure, ouais.
Bah, du coup, a priori, c'est le récit de deux sœurs qui vivent avec leurs parents dans la forêt. Et il y a des effondrements auxquels on n'assiste pas forcément directement, mais qui reconfigurent complètement leur monde. J'essaie de ne pas spoiler. Et donc, elles se retrouvent à devoir composer avec la forêt d'une nouvelle manière qui n'était pas juste celle... Enfin, au début, c'est celle d'avoir une maison dans la forêt et voilà, d'avoir ce rapport-là... très humain finalement d'avoir une maison à un endroit et d'habiter ce lieu. Puis en fait, habiter ce lieu, au fur et à mesure du texte, va prendre une définition différente. Comment est-ce que on trouve des ressources dans ce lieu ? Qu'est-ce que ce lieu veut dire en termes de... C'est un peu ce que tu disais, Elsa, tout à l'heure, mais il y a ce côté très généreux de la forêt, plein de vivants ensemble, très fertile aussi, et puis le côté dangereux... un peu d'issues pour fuir, beaucoup de recoins cachés. Et comment est-ce que ces deux sœurs vont se réapproprier la forêt, mais peut-être réapproprier n'est pas vraiment un bon mot, parce que c'est plutôt comment est-ce qu'elles vont s'incorporer à la forêt, comment est-ce qu'elles vont en faire partie, apprendre vraiment à faire partie d'eux, ce qui, je crois, est un grand enjeu aussi du rapport au vivant de manière plus générale aujourd'hui.
C'est un peu ce que tu disais sur les ateliers d'écriture, cet enjeu de faire cohésion, faire groupe, voilà, ne plus être juste soi tout seul, mais pas se perdre dans un groupe, mais en faire pleinement partie, quoi.
Moi, je pense que c'est une question d'attention portée aussi, de faire... l'attention qu'on porte aux choses, elle les rend plus denses, elle les rend plus vivantes et elle permet d'être toujours attentive. Donc ça marche pour les gens, puis ça marche aussi pour tout ce qui nous entoure. Je pense que ça peut être un mode d'attention au monde, quoi.
Et peut-être entre-temps, moi j'ai quand même pensé à une pièce de théâtre de Mariette Navarro qui s'appelle « Zone à étendre ». Et où il y a un rapport à la forêt qui est assez fort, où c'est des personnes qui décident de quitter, alors on ne sait pas trop pourquoi, comment, mais qui un jour en fait partent depuis chez elles, comme si les villes un peu se vidaient d'elles-mêmes, et qui rentrent dans la forêt. Et il y a tout un passage qui est assez beau, où c'est un texte polyphonique, on ne sait jamais qui parle. Si on le met en scène, il faut distribuer la parole. Et y a des moments comme ça où chacun ou chacune devient forêt. Comme si, pareil, un peu cette idée de rentrer dans la forêt. Et là, c'est dans quelque chose d'un peu utopique d'avoir envie de reconstruire un autre monde depuis l'extérieur. Enfin, de dire, peut-être qu'il y a quelque chose à quitter pour refabriquer. Mais...
Ce que je trouve intéressant dans la façon dont vous voyez toutes les deux les choses, c'est qu'ils se rejoignaient un petit peu dans l'idée de faire corps avec la forêt, etc. Mais aussi ce que tu disais, Elsa, sur les liens en fait, qu'il peut y avoir entre les différentes personnes par rapport à ce thème de la forêt. C'est vraiment cette idée où la forêt, j'ai l'impression, on ne peut pas juste traverser la forêt comme si c'était un paysage comme un autre. Il y a vraiment cette question d'intériorisation de ce qui se passe dans la forêt qui revient un petit peu dans la manière dont vous présentez les choses, dans les œuvres qu'on a évoquées jusqu'à présent.
Et d'ailleurs, quand on traverse, il y a un effet de seuil également. La lisière est d'ailleurs un des thèmes qui est beaucoup travaillé sur la deuxième journée d'études qui, elle, se déroule le vendredi 21. Et en parlant du coup de la programmation, est-ce que vous, Juliette, Elsa, il y a un élément de cette programmation, que ce soit dans la journée d'études ou les autres actions, parce qu'il y en a beaucoup, vu que ça s'étend du mardi jusqu'au samedi, est-ce qu'il y a quelque chose qui, voilà, vous donne de la patience, attise votre curiosité, ou déjà, vous avez chacune vos interventions à prévoir et ça mobilise toute votre attention pour le moment?
Moi, je me suis dit que, parce que j'habite plus Rennes depuis quelques années maintenant, et que je vais essayer de pouvoir être présente sur la journée d'études et aussi d'être là le soir pour te voir, Juliette. Donc oui, ça va être plutôt être moi le jeudi, mais c'est aussi pour des raisons un peu pratiques, vu que le vendredi, je suis en travail, mais de suivre, ça m'intéresse en tout cas, justement, cette question de quel imaginaire mobilise la forêt et comment est-ce qu'on peut voyager à travers la littérature et que chaque œuvre éclaire aussi, j'imagine, un prisme, quoi, sur un regard sur ce qu'est la forêt ou ce qu'on peut se représenter d'elle-même.
Moi, je sais que le début de la semaine, je serai en répétition pour la performance. Du coup, je vais manquer ce qui se passe le mardi. Je crois qu'il y avait une rencontre avec un professeur d'études théâtrales et Guillaume Lambert de l'Instant Dissonant sur son travail et le travail mené avec l'École Parallèle Imaginaire actuellement sur un projet de territoire en Mayenne.
À 10h45.
Voilà. Mais sinon, moi, je pense qu'effectivement, mon attention va être beaucoup sur la journée d'études aussi, de facto, parce que j'y serai pour la table ronde et pour la performance. Et puis même le vendredi aussi, il y a la rencontre avec Lune Villemain, qui est co-organisée avec le Festival Étonnant Voyageur. Moi, j'ai beaucoup aimé son livre « Border la bête ». Et on pourrait aussi parler de rapport à la forêt dans son texte, qui est quelque chose d'extrêmement sensible et qui pose plein de questions. Enfin, je sais que c'est vraiment un texte qui m'a beaucoup intéressée sur la manière de justement écrire vivant, là, ce fameux truc de faire que les choses, elles existent vraiment. Et voilà, bah, ce sera déjà bien. Et j'ai hâte de rencontrer les personnes qui participeront à l'atelier du samedi aussi, comme toujours.
Et pour cette rencontre que tu mentionnes, elle aura lieu à 16h et sera animée par les étudiants et étudiantes du master du département des lettres de l'Université Rennes 2. C'est l'occasion de rappeler que c'est ce master qui porte l'organisation du festival, que ce soit du coup Gaël Desbeaux au niveau de la coordination ou les étudiants qui prennent part à la rédaction des contenus pour parler du festival et créer de la pensée et des textes autour de ça, animer les rencontres, etc. Donc on salue leur travail. Alors qu'il n'a pas encore, on n'a pas eu le temps de le voir, mais on devine déjà qu'il y a eu beaucoup d'implications et on a très hâte de découvrir tout ça. Est-ce que ça serait pas l'heure d'une dernière pause musicale ? Eh bien, on va écouter Kiki Rockwell. C'est From Persephone.
C'était From Persephone de Kiki Rockwell. L'émission touche bientôt à sa fin. Mais avant de se quitter, on va faire un petit tour des dernières actualités de nos invités.
Alors, je sais que notamment, il y a une question que je n'avais pas pu te poser, Juliette. Tu es également membre d'un collectif, Collective Bouche au féminin. Peut-être que si tu n'avais pas une actu personnelle dont on a déjà parlé, peut-être que cette collective en a un.
Oui, tout à fait. On organise avec la collective Bouche, qui est un collectif qu'on a construit avec trois amis. On fait des scènes ouvertes au bar Grabuge, qui est à Rennes, quartier Courrouze. Et la prochaine aura lieu le 9 décembre. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, alors ça va être très imprécis comme manière de communiquer l'information, mais il faudrait se procurer notre mail que je ne connais pas là comme ça.
Mais qui sera en description du podcast.
Et vous pouvez nous écrire, on vous ajoute à la newsletter et comme ça quand les inscriptions sont ouvertes, vous recevez toutes les infos qu'il faut pour venir participer.
Et moi, au niveau de l'actualité, en fait, c'est que maintenant, je suis du côté de Morlaix. Donc, c'est une actualité un peu plus lointaine géographiquement. Il y a en ce moment une promenade sonore qui tourne dans toutes les médiathèques de Morlaix Communauté qui s'appelle la Tournée Minuscule, qui est une invitation en fait à partir marcher depuis chez soi. Et moi, je m'adresse à la personne comme si on partait marcher ensemble, sauf que je pars aussi marcher depuis chez moi. Et après, il y a un deuxième temps qui s'appelle le tri de la tournée, où toutes les personnes qui ont fait cette marche se rencontrent et où je suis présente aussi. Et donc ça c'est du côté de Morlaix, et sinon dans le coin ça va pas être tout de suite, il y aura Écho du sous-sol au printemps prochain qui va jouer à Aidé Bazouge, peut-être à Fougères mais c'est pas encore sûr, et sinon à Plohermel. Et pour avoir les infos, ça peut être aussi de s'inscrire à la newsletter de la compagnie de l'Atelier des Possibles.
Après, on a à Rennes, il y a pas mal d'étudiants et étudiantes. Il y en a sûrement qui rentrent chez eux à Morlaix le week-end pour faire la lessive chez les parents. Donc, ça pourra peut-être tomber dans une oreille attentive. Et bah, de notre côté, j'avais craché sur Vendance, on a encore de l'actualité transversale parce qu'on participe à l'événement. On va participer à la captation et à la diffusion live du Pur Café Éco-Écrire. Donc, une rencontre qui sera animée par les étudiants qui gèrent le festival avec Anne-Rachette Hermetet. Et donc, ça va parler d'éco-anxiété. Ça marche très bien avec la forêt aussi. Et on se contente pas de venir là pour donner à entendre ce temps d'échange sur les ondes. On va également organiser une émission juste à la suite, donc à partir de 13h50. Les deux événements se tiendront du coup à la salle d'actualité, à la BU, sur le campus de Villejean. On vous invite à venir, nombreux et nombreuses, ou en tout cas à brancher votre radio. Et il nous reste peut-être un dernier mot. On disait hors antenne, pendant que la musique passait, qu'il y avait un festin final qu'il serait bon de mentionner, étant donné ce qu'il promet. Qu'est-ce qui se passe le samedi soir à 18h? Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot?
Eh bien, il y a un rassemblement. Enfin, je sais pas si c'est un rassemblement, si c'est le mot, mais en tout cas, il y a un appel à toutes les personnes qui travaillent sur la forêt d'une manière que ce soit biologique ou littéraire ou artistique. Enfin, vraiment, c'est très large, à venir se réunir pour échanger sur... c'est quoi de travailler sur la forêt partager avec d'autres personnes qui ne pensent que forêt travailler ensemble sur ces questions-là, je pense se réunir aussi, puisque Gaëlle Debeau qui co-organise le festival fait des recherches sur la forêt et justement est à l'initiative aussi un peu de ce rassemblement-là pour échanger et pour partager, parce que je pense que toutes ces questions de représentation là dont on a parlé durant l'émission, elles se recroisent, elles se recoupent, et c'est très intéressant d'en discuter ensemble.
Vive la transdisciplinarité, quand bien même ce mot soit beaucoup trop long. Bah, on vous remercie beaucoup pour votre temps et pour ces échanges, et puis un grand merci à Gaëlle Debeau qui nous a aidé à mettre en place ce moment. Bonne soirée à nos auditeurs et à nos auditrices, et à bientôt sur les ondes.